propose de laisser Emmanuel continuer sur la partie utilisation du logiciel libre par la municipalité, donc les questions liées aux migrations de postes de travail, et sur les aspects développement du logiciel libre par la municipalité, donc les questions liées à la mutualisation, en particulier dans le cadre de la DILACT. Et après, on verra la partie éducation populaire. Emmanuel.
On peut répondre à ta question.
Voilà.
Il ne nous a pas échappé que depuis le début de cette mandature, effectivement, la ville de Paris s'est ouverte à la culture du libre et a non seulement posé des intentions, mais posé des actes, ce qui me paraît encore plus important. Donc de ce point de vue-là, dès 2003, la ville a effectivement adhéré à la DULAT, ce qui était un acte symbolique très fort et un acte politique très, très fort, que la capitale de la France adhère à cette association que vous connaissez. Et puis nous avons posé un principe qui est un principe qui vise à favoriser l'interopérabilité, à ouvrir la ville, l'ensemble de ses marchés, notamment de façon très concrète, au libre, tout en restant dans une démarche de performance du service. Donc, c'est vrai que Bertrand Lanoué a très clairement expliqué qu'à la fois nous souhaitions nous ouvrir au libre et utiliser aussi l'effet de levier qu'une ville de l'importance de Paris peut avoir sur ces sujets en termes de crédibilisation, en termes aussi de solvabilisation en termes d'acteurs économiques, etc. Et en même temps rester dans une logique de service. Je prendrai un exemple, c'est qu'on avait effectivement, comme nous sommes arrivés en 2001, tout le système d'information, l'état civil, qui venait d'être refait. Bon, on allait dans une solution propriétaire. On n'allait pas tout casser pour, entre guillemets, le plaisir de faire du libre, alors qu'on avait un service qui fonctionnait. Mais pour autant, nous avons considérablement développé donc notre utilisation de matériel libre, puisque sur les serveurs, nous sommes passés de 69% de solutions propriétaires au début de la mandature à 42% aujourd'hui. Et à l'inverse, les serveurs Linux représentaient 18%. En 2001, ils sont aujourd'hui à 42%, donc on a donc une inversion de tendance tout à fait marquée. Et puis, vous le savez, nous avons développé le logiciel open source Lutèce, qui est aujourd'hui utilisé sur l'ensemble des sites intranet de la ville et sur l'ensemble des sites internet des mairies d'arrondissement, et qui a été donc mis en commun et qu'aujourd'hui, bon nombre de collectivités importantes en France, moins importantes d'ailleurs, utilisent et ont pu se réapproprier. Donc de ce point de vue-là, je crois que nous avons réellement marqué une volonté. L'ensemble de nos marchés sont explicitement ouverts à des solutions en libre, même si, vous le savez, le respect des procédures de marché nous interdit d'exclure par principe l'ensemble des autres offres. Mais nous avons à chaque appel d'offres lancé la nécessité donc d'ouvrir à des solutions issues du libre pour l'ensemble de nos besoins.
Ça, c'est une limitation sur l'achat de solutions. Est-ce que c'est dans la politique générale de la ville de décider toutes les solutions développées par la ville, ce qui n'est pas la même chose, parce que en informatique, quand un client achète à une entreprise un développement, il est propriétaire du logiciel, complètement. Pas que d'un droit d'utilisation. Est-ce que c'est un choix politique de la ville de décider que tout ce que la ville développera sera en libre et donc accessible librement à toutes les autres communes ou à toutes les autres organisations qui en auraient besoin ? Je pense par exemple, je soupçonne que la mairie de Paris doit payer des développements assez faramineux dans un certain nombre de sujets. Tout ce qui est comptabilité publique, enfin tout ce qui est la soute informatique de la ville de Paris, je soupçonne que là-dedans il y ait beaucoup de développements plus ou moins faits sur mesure. Le simple fait de décider de rédiger le cahier des charges en disant à prix égal on préférera une solution entièrement développée, et si elle est entièrement développée on publiera sous forme libre, c'est un positionnement politique qui a été fait par plusieurs collectivités dans le monde. Je ne sais pas si c'est le choix de la ville de Paris à l'heure actuelle. Je ne sais pas s'il y a une décision
finale. Juste un complément sur la question qui est liée à la remarque sur les appels d'offres et la façon dont on peut dire on n'accepte pas telle ou telle solution. Indépendamment de dire on n'accepte qu'une solution en logiciel libre ou pas, une question qui est très importante et qui est d'ores et déjà possible dans les appels d'offres, c'est de prévoir que les formats qui seront utilisés, que les solutions soient interopérables et que ce ne soit pas justement des formats propriétaires.
Absolument, tout à fait. Alors, pour prendre un exemple, nous sommes en train de développer donc des logiciels pour la gestion de nos 12 000 marchés publics annuels et qui sont développés en libre. donc qui ont vocation naturellement à être mises en commun et de façon à ce que chacun puisse se l'approprier.
C'est des choix ponctuels ou c'est une politique générale de la ville de dire...
Écoutez, je voudrais, pour être clair, je pense que la démarche générale, c'est bien effectivement d'être dans cette logique d'ouverture. Je ne voudrais pas être démenti par un ou deux exemples, mais qui ne peuvent pas inverser la tendance générale et la volonté très, très marquée, effectivement, de nous inscrire résolument, délibérément et clairement dans les villes. Pour les logiciels que nous développons.
On va passer à la question de l'éducation populaire et donc de la formation des citoyens, et donc aussi de manière associée à la lutte contre la fracture numérique. Et je vais laisser Jérémy Estelle en parler.
On a vu en tout cas dans les premières questions que actuellement les nouvelles technologies et Internet étaient quelque chose de fondamental. Je pense qu'on partage tout ce point de vue. Et donc vous avez parlé d'éducation en disant que c'est vraiment fondamental que l'ensemble des citoyens à considérer, parce qu'ils vont voter pour des politiques, comprennent les enjeux liés aux nouvelles technologies, et ça m'a même été dit à un moment donné que ça ne peut pas rester dans le champ d'expertise. Alors, évidemment, on peut supposer qu'avec l'école, l'éducation nationale, en tout cas, au niveau d'État, il y aura des choses qui vont se mettre en place pour les écoliers. Il reste que pour que ça soit compris par tous les citoyens, il est important justement qu'il y ait des lieux d'éducation populaire qui permettent de former tous les citoyens. Alors, l'éducation populaire, c'est pas neutre, hein. Ça s'est fait à des moments donnés où il y avait des choix à faire. L'éducation populaire, c'est des gens qui ont décidé, par exemple, de dire pour apprendre à lire, peut-être que la ville, c'est pas le meilleur support. Quand on veut apprendre en termes des logiciels à des personnes, et quand on dit des logiciels, c'est plutôt des procédés qu'on veut apprendre l'informatique à une personne, est-ce qu'à ce moment-là, en termes de démarche d'éducation populaire, on va choisir un éditeur particulier ou tel logiciel, ou est-ce qu'à un moment donné, on va essayer de choisir, d'initier à différents logiciels pour apprendre aux personnes à maîtriser, non pas un logiciel, mais des pratiques. Ce qu'on dit clairement, un traitement de texte. On sait qu'il y a pour traitement de texte plusieurs logiciels. Ce qui est important, c'est d'utiliser un traitement de texte. Pareil pour quand on utilise un navigateur. Ce qui est important, c'est pas de savoir utiliser le logiciel du navigateur, mais c'est le navigateur. Qu'est-ce que concrètement vous allez faire en place pour que l'ensemble des acteurs actuellement donc, que vous allez former sur la ville de Paris, EPN, centres sociaux, puissent former leurs concitoyens, non pas à un logiciel d'un éditeur, mais bien à des pratiques comme traitement de texte, navigateur, etc.
Quand j'essaye de me remettre en arrière et penser aux enjeux qui pouvaient être ceux du sujet que nous évoquons ce matin il y a une dizaine d'années, l'obsession c'était l'accès à l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, on a toujours cette problématique de l'accès avec le développement du très haut débit et on a parlé de la fibre optique, donc j'y reviens pas, mais c'est vrai que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est l'usage et l'autonomie qu'on peut acquérir dans l'usage. Donc la réponse est un peu dans votre question. C'est évident que on a évoqué l'enjeu éducatif qui est évidemment majeur, et puis nous évoquions les EPN, donc il y en a 19 à Paris, qui sont avant tout basés dans les quartiers politiques de la ville, donc là où il y a un besoin de lutter le plus efficacement contre la fracture sociale et territoriale. C'est un budget d'1 million d'euros par an, et ça permet à des milliers de personnes d'avoir accès à Internet et de développer des usages qui les rendent autonomes, effectivement, et non pas dépendant d'un logiciel en particulier. Donc c'est des dizaines de milliers d'heures de formation, et l'idée c'est de développer au rythme de 2 par an ces EPN qui donc qui ont d'ailleurs une base associative. Ce sont des initiatives associatives que nous validons et qui bénéficient d'un soutien financier de la ville en tant que telle. Voilà. On veut les développer dans les centres sociaux, dans les centres d'animation. On pense aux seniors, mais en l'occurrence, il y a déjà une vingtaine de clubs seniors qui ont un accès libre et gratuit à Internet. Et puis, les personnes handicapées, enfin, tous ceux qui sont loin de l'outil informatique. Voilà. Donc, il s'agit de franchir une double étape. Un, leur assurer un accès. Et deux, dans l'usage qu'ils développent, les rendre autonomes et non pas dépendants.
Oui, je voudrais rajouter un mot sur ce thème de l'éducation. Je pense que Internet peut, bon, peut former au logiciel, mais moi je pense surtout que Internet c'est une occasion formidable d'améliorer l'éducation populaire. Je prends, vous vous baladez dans le métro parisien, vous avez des publicités sur le soutien à domicile par des entreprises qui sont parfaitement prospères, et quiconque paie un impôt sur le revenu a accès à ces services pour pas cher. Bon. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, comme élu de gauche, c'est une question qui est absolument fondamentale. Qu'est-ce que nous faisons pour les gosses des familles qui ne paient pas l'impôt sur le revenu et qui ont besoin d'un soutien scolaire? Donc, moi, je pense que le logiciel, c'est extrêmement important, mais ce qui est tout aussi important pour moi, c'est que les promoteurs du logiciel libre aident des sociétés, des associations à monter des programmes, par exemple, de préparation au diplôme initial de langue française. Bon, on a un problème d'illettrisme à Paris comme en France qui est tout à fait important. Bon, on a des mères de famille qui restent à domicile. Si on pouvait, alors je suis un peu dans le domaine de l'utopie, mais si on pouvait leur donner un accès facile à des préparations à domicile, pas seulement les cours des arts et métiers, mais vraiment des choses tout à fait élémentaires, ce serait formidable. Je prends un autre exemple. Pour les gosses qui sont dans le primaire et dans le secondaire, ou ceux qui sont en échec scolaire, on a créé une école de la deuxième chance. Bon, c'est un projet extrêmement coûteux, mais avec un taux de réussite de l'ordre de 70%, bon, mais qui recourt à des pédagogies classiques. C'est un professeur, un accompagnant en présence d'un jeune qui s'est perdu à un moment et qui a envie de revenir dans la société. Moi, je crois, et je sens, mais je ne peux pas le démontrer, je sens que la créativité, l'imagination des promoteurs du logiciel libre peuvent nous aider aussi à sortir d'une position hégémonique des grandes entreprises qui vendent de l'éducation. Bon, et là, il y a quelque chose à faire. Je ne sais pas si vous, les apôtres du logiciel libre, vous y pouvez quelque chose, mais franchement, si vous permettez à des gosses qui n'ont pas de soutien scolaire à domicile de se perfectionner en maths, en français, en histoire, en géo, en s'amusant, vous serez des hommes et des femmes formidables.
Ça tombe bien, parce que moi, je ne voulais pas parler, en tout cas, juste sur un consensus. Donc, on est d'accord, en tout cas, que la... En tout cas, ce que vous proposez à terme, c'est que les personnes qui vont favoriser la formation des Parisiens au logiciel se fassent sur multiples éditeurs, qu'ils soient formés non pas à un logiciel, mais à des pratiques. Pour vous répondre, notre association, on dirait deux mots parce que ça nous semble...
Mais allez-y.
Ce qu'on fait. Donc, Bellinux, avec le soutien de la ville de Paris, met des salles informatiques dans les foyers de travailleurs migrants. Nous travaillons, donc ce n'est pas une utopie, mais de façon très concrète avec l'AFTAM Formation, et d'autres personnes qui font l'alphabétisation, mettre en place des cours en ligne audio sur Internet, sur une plateforme, et encore avec votre soutien, pas plus tard qu'hier à la mairie du 20e, dans un centre d'animation de la Ligue de l'enseignement, on a mis en place une salle informatique. Donc, on avance et on a réfléchi actuellement à mettre en place des cours pour les enfants, parce qu'on donne des ordinateurs à des familles du quartier du Babelville, et qu'on est en train de réfléchir comment par Skype on peut développer des bénévoles numériques. Ça veut dire pas des gens qui se déplaceront dans des lieux, mais qui pourront aider des enfants en fonction de leur connexion, etc. Donc ça, les associations du logiciel, mais notre petite association, on essaye de le faire. Mais notre petite association, pourquoi on est venu là? C'est l'autre aspect sur lequel je voudrais échanger avec vous, c'est qu'on a choisi le logiciel libre parce qu'on a dit, bon, les usages, c'est important. Mais nous, ça nous semble être qu'une petite pierre. Ce qui nous semble important, c'est de former des enfants à la science. Parce que les nouvelles technologies, c'est pour nous de la science. Et si on a fait le choix du logiciel libre, c'est parce qu'il n'y a pas seulement un logiciel avec un tableur, un traitement de texte, il y a comment le logiciel a été fabriqué. Ça veut dire que pour des enfants qui sont curieux, des parents, des autodidactes, et il y en a, c'est comme l'éducation populaire, c'est fait d'autodidactes, et bien il peut regarder le code. Quand vous êtes sur Internet et que vous êtes curieux, vous avez envie de voir le code source de la page avec votre navigateur, vous pouvez regarder comment cette page a été faite. Vous pouvez voir qu'il y a des balises HTML, qu'il y a un effet de poupée gigogne. Donc intellectuellement, sans être un expert, vous pouvez commencer à comprendre comment le logiciel a été fabriqué. C'est pour ça que pour nous, le logiciel libre est important, mais même plus loin, parce que nous, on récupère des ordinateurs. Notre rêve, c'est de former des enfants. On peut comprendre comment l'électronique se fabrique. On est dans un enjeu de société énorme, où non seulement le logiciel et l'électronique sont de plus en plus embarqués. Quand on prend un téléphone portable, on n'est même plus des fois intellectuellement en capacité de le démonter. Avant, quand vous l'expliquiez à des enfants comment on faisait un téléphone, il suffisait de prendre deux verres, mettre une ficelle, et on pouvait expliquer des phénomènes. Comment on fait pour expliquer, à l'heure actuelle, des phénomènes technologiques plus importants? C'est pour ça qu'il nous semble important que les EPN ne forment pas seulement à des usages, mais soient des vrais lieux d'éducation populaire où on peut initier les personnes à la science.
Mais en l'occurrence, quand on parle éducation populaire, je veux dire, c'est une référence historique majeure, hein, c'est le Front populaire, c'est Jean Zay, c'est Lola Grange, et c'est très passionnant d'ailleurs, parce que pour tous ceux qui réfléchissent un peu et qui revisitent ce que peuvent être les politiques culturelles, on est en ce moment justement dans un retour aux fondamentaux de l'éducation populaire et du Front populaire et de ce qu'a pu faire de manière très visionnaire Jean Zay à l'époque. Voilà, je veux dire par là qu'on est dans une réflexion donc qui dépasse d'ailleurs seulement les enjeux culturels, qui ne soit pas dans l'idée d'une sorte d'horizontalité. Donc la politique culturelle de Malraux, par exemple, c'est l'idée de faire partager au peuple une culture bourgeoise, et c'est une démarche de démocratisation culturelle, mais qui fait qu'on part de la culture bourgeoise qu'il s'agit d'apporter au peuple. Voilà. Des fondamentaux d'éducation populaire, c'est autre chose. Parce que c'est une culture partagée, c'est une culture mise en commun, c'est une culture à laquelle tout le monde participe, c'est une culture mutualisée, et c'est pour ça que lorsqu'on fait le lien entre éducation populaire et logiciel libre, je crois qu'on est au cœur d'une démarche et d'une problématique qui est celle du partage, de la mise en commun, et qui amène chacun, en tant que citoyen, à contribuer à nourrir un espace commun.
C'est pour ça qu'il pourrait sembler que sur la formation des animateurs d'EPN et tous les centres sociaux, les acteurs du logiciel libre et les universités qu'on a envie et les associations d'éducation populaire puissent être associés pour que ce soit réellement une démarche partagée qui ne soit pas seulement, par exemple, dédiée à une entreprise.
Historiquement et culturellement, éducation populaire et logiciel libre, je dirais quelque part qu'il y a une logique à ce que ça se croise et à ce que ça s'entrecroise.
Et c'est bien pour ça que la mairie de Paris soutient une association comme la nôtre.
Oui, oui. Moi, je suis très content de l'apprendre et je vous félicite de faire ce très beau boulot.